Un nouveau haut commissaire prochainement en Nouvelle-Calédonie. Jacques Billan va succéder à Louis Lefranc. Décision prise cette nuit pour nous en Conseil des ministres. À quelques jours d'une nouvelle visite de Manuel Valls, François Bayrou estime qu'un accord est possible. Le Premier ministre l'a affirmé devant les sénateurs. Pour suivre le travail contre la cherté de la vie, l'autorité de la concurrence qui dressait un bilan de son année 2024 en fait une priorité pour l'année 2025. À l'étranger, le chaud et le froid. Donald Trump annonce la suspension de l'entrée en vigueur de la hausse des droits de douane pour 3 mois, sauf pour la Chine. Et puis le sport, le PSG prend une belle option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce matin, les Parisiens ont dominé Aston Villa 3 buts à 1 en match aller des quarts de finale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après avoir été victimes des exactions lors des émeutes, ils ont choisi, malgré les difficultés, de relancer leur activité, de se diversifier, de rebondir en s'adaptant. Certains de ces chefs d'entreprise viendront ce midi dans les Jeudis de l'économie témoigner des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de leur volonté de ne pas baisser les bras. Nous serons en compagnie notamment d'Anthony Lavergne, qui est gérant de Confort du Logis, et de Thomas Chabanel, qui est gérant de Rénov'toi. Des Jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de cette édition. Un nouveau haut-commissaire pour la Nouvelle-Calédonie, arrivé en février 2023 sur le territoire. Louis Lefranc va quitter la Calédonie et c'est l'actuel préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan, qui va lui succéder. Il a été nommé cette nuit pour nous en Conseil des ministres, Elisabeth Noir.
Jacques Billan est en effet l'actuel préfet du Pas-de-Calais, âgé de 65 ans. Il vient d'être nommé en Conseil des ministres, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Comme Louis Lefranc, Jacques Billan est diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Et c'est un ancien officier d'active. Il a servi pendant 17 ans comme officier, surtout dans le génie parachutiste. Il a notamment participé à la force de protection des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Jacques Billan a ensuite intégré le corps des sous-préfets en 99 et il a notamment été chef de cabinet auprès de la garde des Sceaux, Rachida Dati. Il est ensuite nommé préfet de l'Ariège, puis de la Dordogne. Mais il a aussi une expérience outre-mer puisqu'il a été préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et en 2019, il a été nommé préfet de la Réunion. En juillet 2022, enfin, il est nommé préfet du Pas-de-Calais où il succède à un certain Louis Lefranc. Jacques Billan devient donc le nouveau commissaire de la Nouvelle-Calédonie où il va succéder là encore à Louis Lefranc. Une succession qui s'effectue en pleine séquence de discussions sur l'avenir institutionnel. Mais c'est encore Louis Lefranc qui accueillera Manuel Valls lors du retour du ministre des Outre-mer le 29 avril. La succession au commissariat se fera en effet au tout début du mois de mai.
Arrivé en février 2023, Louis Lefranc aura donc passé un peu plus de 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Un séjour marqué évidemment, Elisabeth, par les violences insurrectionnelles de mai 2024.
Et Louis Lefranc aura joué un rôle déterminant lors de cet épisode violent où la Calédonie a été confrontée à une véritable insurrection armée et où il a tout fait pour rétablir l'autorité de l'État. C'est ce rôle que soulignent les partisans de la France qui ont réagi ce matin à son départ, comme la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
Il a été pendant l'insurrection la bonne personne au bon endroit. Il a résisté avec le peu de moyens qu'il avait, avec des difficultés gigantesques. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Il faut se rappeler qu'on lui doit aussi la reddition des 5 plus violents de Saint-Louis, ceux qui carjackaient, qui attaquaient les voitures avec les méthodes les plus violentes. C'est lui qui a négocié leur reddition. Il a été présent à tous les moments et à la fois sur le plan opérationnel, mais également pour conseiller et pour accompagner les ministres qui sont passés pour leur décrypter la situation calédonienne. On perd évidemment un haut-commissaire exceptionnel. C'est pas toujours le cas. On voit passer différents profils et c'est vrai que Louis Lefranc a été la bonne personne au bon endroit.
Sonia Baquès qui ajoute que selon ses informations, le successeur de Louis Lefranc, Jacques Billan, est lui aussi un grand serviteur de l'État. Et puis réaction également du député Nicolas Metzorf dans un communiqué. Il tient à remercier sincèrement Louis Lefranc pour son engagement dans une période parmi les plus difficiles que notre territoire ait connue. Le député de la première circonscription relève que Louis Lefranc a affronté avec sang-froid et détermination la crise insurrectionnelle de 2024 et qu'il a tenu bon avec des moyens très limités au départ. Grâce à sa capacité à garder la tête froide, il a évité que la situation ne dégénère complètement, puis il a piloté avec efficacité le retour à l'ordre, y compris dans des zones particulièrement sensibles comme Saint-Louis, écrit Nicolas Metzdorf, qui ajoute que ce fut une mission rude, mais essentielle pour notre pays. Le député de la première circonscription indique que la nomination de Jacques Billan intervient dans un contexte encore fragile, où l'autorité de l'État doit continuer à s'exercer avec clarté, mais il estime que son parcours traduit un choix assumé de l'État, celui de la fermeté et d'une connaissance fine des enjeux liés à l'outre-mer. Nicolas Metzdorf qui veut y voir un signal clair, celui d'un État qui entend rester pleinement engagé en Nouvelle-Calédonie avec sérieux et détermination, Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, 11h35.
François Bayrou juge possible un accord en Nouvelle-Calédonie et selon lui, sans un accord, le territoire ne pourra pas se rétablir. Le Premier ministre s'exprimait devant le Sénat lors de la séance des questions au gouvernement en réponse au sénateur Robert Rowy. François Bayrou qui a bien sûr fait référence aux discussions menées par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Un premier document d'orientation a été mis sur la table, puis un projet d'accord qui a commencé à être discuté avec toutes les parties depuis le 31 mars dernier. Je considère que nous avançons collectivement, pas à pas. Je souhaite qu'un accord puisse être trouvé et je crois qu'il est possible de le trouver. Il est essentiel pour l'avenir des Calédoniens et j'ai la conviction, je suis sûr que c'est la vôtre aussi, que sans un accord de ce type, le territoire ne pourra pas se rétablir. Nous le devons à l'ensemble des Calédoniens, le gouvernement, le droit à l'ensemble des Calédoniens et les représentants des citoyens le doivent aussi à leurs concitoyens. L'État affirme donc qu'il est aux côtés des Calédoniens, aujourd'hui comme demain, quelle que soit la forme, dont nous savons tous qu'elle sera forcément originale, comme elle l'a toujours été pour la Nouvelle-Calédonie, la forme que nous trouverons collectivement pour ce pays qui retient depuis si longtemps notre attention, notre engagement et, si vous me permettez de le dire, notre affection.
La réponse de François Bayrou au sénateur Robert Rowy, membre de l'UC, alors que le FLNKS s'est dit circonspect face au projet d'accord proposé par l'État et doit réunir une convention le 26 avril pour décider de sa participation ou non à la troisième séquence de négociations.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est justement l'objet de notre question du jour dans votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La voici, la réponse à la question du jour. 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le FLNKS va refuser d'entrer en négociation après sa convention du 26 avril. Ils ne sont que 8% à penser qu'il va accepter de négocier. La voici, la question du jour. La proposition de Laurent Wauquiez d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon a provoqué un tollé dans la classe politique. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Si vous pensez que c'est une bonne idée, vous tapez 1. Si cela vous choque, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. 4 individus déférés pour les violences au 1881. 3 majeurs seront jugés demain en comparution immédiate et un mineur comparaîtra le 23 avril. Lors de leur garde à vue, ils ont reconnu avoir participé à des faits de violence dans la nuit du 8 au 9 mars dernier au sein de l'établissement de nuit de Nouville. C'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué, Nicolas Legrand.
Oui, ce soir-là, peu après minuit, des échauffourées avaient éclaté à l'intérieur de l'établissement qui organisait la soirée très alcoolisée, Ladies Night. Plusieurs rixes ont ensuite éclaté sur le parking, impliquant 2 à 300 personnes. Des affrontements qui se sont ensuite poursuivis jusqu'au Théâtre de Lille et qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Yves Dupas, le procureur de la République, indique dans son communiqué que selon les premiers témoignages recueillis, une bande appelée Alka, regroupant des jeunes originaires du quartier de Jacarandas à Dimbéa, s'était livrée à plusieurs scènes de violence. 4 victimes ont porté plainte. Un homme pour avoir été frappé par 2 individus à main nue, mais aussi avec des tessons de bouteille. Il a notamment été blessé au visage. Un autre a été atteint par plusieurs coups de pied à la tête et présentait une fracture de la mandibule et un important hématome au visage. L'examen médical avait conclu à une interruption temporaire de travail de 45 jours. La troisième victime a été sérieusement blessée à l'épaule et la quatrième a été touchée au visage et au dos. 3 des personnes arrêtées sont des majeurs et n'ont aucun antécédent judiciaire et comparaîtront donc libres demain. En revanche, le mineur est défavorablement connu de la justice. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès au tribunal pour enfants le 23 avril. Et il est notamment poursuivi pour les faits les plus graves qui ont conduit à cet ITT de 45 jours.
11h40, la suite de l'actualité en Calédonie, c'est dans un petit instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Le marché de Boulari change ses jours et horaires d'ouverture. À partir du 4 avril, retrouvez nos commerçants de 7h à 17h en continu, tous les vendredis et samedis, de 6h à midi, tous les dimanches. Le marché de Boulari, c'est toute la richesse de la proximité. Infoline 96 07 09.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie et l'autorité de la concurrence fixe le cap pour 2025. Lors d'une conférence de presse ce matin, son président Stéphane Rotherer a dressé le bilan de l'année 2024 et parlé des perspectives pour 2025, Nicolas.
Oui, l'année dernière, l'activité a évidemment été marquée par les violences de mai, les nombreuses destructions d'entreprises et la crise ont totalement rebattu les cartes de l'économie calédonienne. L'autorité de la concurrence a donc dû s'adapter pour aider les entreprises à sortir la tête de l'eau et pouvoir relancer leur activité, tout en veillant à ce que les groupes qui ont été relativement épargnés par les destructions ne profitent pas d'un effet d'aubaine. Écoutez son président Stéphane Rotherer.
Il a fallu s'adapter dans les pratiques, il a fallu, tout en restant vigilant, à faire preuve d'énormément de flexibilité et de souplesse. On l'a fait en matière de droit des concentrations et concentrations d'entreprises, demande d'autorisation, pour faciliter la reconstruction des entreprises. Donc on a été très souple, on a facilité les choses, on a divisé par deux les formalités administratives. Mais d'un autre côté, beaucoup de vigilance pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de profiteurs de crise, hein, et ça arrive toujours, hein. Quand on a peur, on profite aussi. Donc l'autorité a encore des affaires en cours dans ce cadre-là, au service de l'instruction, hein, qui pourrait sortir dans l'année 2025. Il y a eu moins d'affaires en matière de concentration d'entreprises et d'équipements commerciaux. Ça a été divisé par deux. On était à 25-26 affaires. On est passé à 14. Ceci explique le nombre d'avis et de décisions qui ont baissé. On est à 19 avis et décisions, alors qu'on était à 36. On divise par deux, c'est à peu près ça. Mais d'un autre côté, on a travaillé sur d'autres sujets, comme les notes économiques, qui nous ont permis aussi d'avoir une réflexion un peu plus de fond sur le modèle économique que souhaite la Nouvelle-Calédonie.
L'autorité de la concurrence a en effet publié deux notes économiques pour conseiller les pouvoirs publics et elle compte continuer à jouer ce rôle auprès du gouvernement en 2025, notamment pour identifier les leviers de lutte contre la vie chère. Elle a notamment proposé l'audit sur les protections de marché et elle va aussi animer un colloque sur l'intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie en termes d'économie.
Il y a beaucoup de travail sur ces questions-là. La vie chère est une priorité, même si vous avez bien compris que plus de concurrence permet d'avoir une compétitivité des entreprises, mais aussi des prix plus compétitifs et donc une baisse des prix pour le consommateur. Mais derrière ça, il y a tout un travail sur la réglementation qui ne relève pas de la compétence de l'autorité de la concurrence. Donc nous, dans notre casquette de conseil, ben, on va proposer encore et encore au gouvernement des modifications de réglementation. Ça porte déjà ses fruits, hein. Vous l'avez vu, Christopher Gigès a déjà lancé il y a un mois ce plan avec des réunions, avec des concertations. Il va y avoir sur la fiscalité et l'emploi prochainement, vendredi sur les protections de marché. Des réunions qui visent à réformer l'économie, la réglementation, justement pour contribuer à lutter contre la vie chère.
L'autorité de la concurrence qui co-organisera donc un colloque avec l'UNC les 26 et 27 juin prochains sur cette question de l'intégration régionale. L'objectif serait de limiter les coûts de transport des marchandises pour faire baisser les prix pour le consommateur. Mais ça pose beaucoup de questions comme celle des accords de libre-échange, mais aussi des normes applicables en Nouvelle-Calédonie afin de permettre l'importation de ces produits par exemple.
Le rodéo devient officiellement un sport. Le gouvernement a adopté hier un projet de délibération qui vise à inscrire la discipline sur la liste des manifestations sportives et dans le monde du rodéo. Cette nouvelle est évidemment très bien accueillie, Charlotte Coulson.
Très bien accueillie, effectivement, car depuis 2017 déjà, les associations de rodéo portent le projet de faire reconnaître leur pratique comme un sport. Cette décision est donc l'aboutissement de nombreuses années de travail, entamées notamment par l'UARNC, l'Union des associations de rodéo de Nouvelle-Calédonie, dont Mariella Vincent est aujourd'hui la présidente.
Alors on est très contents, toute l'équipe est très très contente. Dans le rodéo, on a une personne en particulier qui a toujours voulu œuvrer pour le rodéo, pour que le rodéo soit reconnu, pour qu'il y ait des règles. Il s'appelle Gérard Vidoire, il y a des années. C'est une équipe et surtout lui, beaucoup de disponibilité pour aller dans les bureaux, taper aux portes et dire voilà, il faut reconnaître le rodéo, il faut qu'on fasse quelque chose pour le rodéo. Et ça aboutit des années après. Moi, je reprends le flambeau, mais oui, on est fiers. Hein. C'est vraiment symbolique parce qu'aujourd'hui, les petits gars, ils ont beaucoup évolué. Et puis, ça ne reste pas du folklore, quoi. C'est pas des clowns, ce sont des rodéomans.
Vous parliez du Royal Show, vous pensez que ça a pu aider ?
Ah, mais je pense que c'est ce qui a finalisé le dossier rodéo. Parce que vu le spectacle qu'on a pu donner, les gens étaient ravis et ça a amené des milliers de personnes.
Et l'Union accompagne aujourd'hui près d'une quarantaine de rodéomans qui pourront, comme leurs camarades Axel Roy ou encore Théo Deveau, avoir plus d'ambition dans leur projet. Car bien sûr, au-delà de la symbolique, cette reconnaissance de la discipline permettra surtout de débloquer des subventions.
Ce qui change, c'est qu'il y aura plus de règles, il y aura plus d'organisation aussi. Et de ça, on va aussi avoir des subventions. Et c'est surtout ça qui fera que le rodéo va évoluer encore un petit peu plus. Les subventions vont bien nous aider parce que le coût des animaux, ça devient vraiment très cher. C'est par million maintenant, hein, ça coûte le million quand il faut louer des bêtes. Vous avez appris ce qui va avec la logistique. Déjà, le médecin, les ambulances. Il ne faut pas oublier que c'est un sport très dangereux, hein. C'est de l'extrême. Hein? Et puis après, vous avez les récompenses. C'est toujours les mêmes enveloppes. Elles ne sont pas très grosses. Donc aujourd'hui, on souhaiterait qu'ils aient de plus grosses enveloppes, des cadeaux plus généreux. Quoi.
Et la discipline n'étant affiliée à aucune fédération française, c'est un arrêté du gouvernement qui en fixera les réglementations.
Infomag, il est 11h46.
Demain soir à 19h, le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie accueillera un concert qui marquera la préouverture de la saison Île de Lumière. Concert donné par le violoniste Bertrand Cervera, membre de l'Orchestre National de France, qui était notre invité ce matin. Bertrand Cervera vient en Calédonie non seulement pour ce concert, mais aussi pour rencontrer les artistes du territoire.
Venir ici juste pour un concert, c'est intéressant, mais c'est pas le seul but. C'est pour ça que, par exemple, hier, il y a eu une masterclass avec les élèves du conservatoire. Donc cette rencontre est très importante parce que c'est un échange autant riche pour moi, enfin, j'espère pour eux aussi un
peu. Pour vous, enseignant.
Mais pour moi, en tant qu'enseignant et en tant qu'humain, c'est rencontrer de jeunes musiciens qui ont envie d'évoluer. Voilà, c'est important de dire que la musique est un langage universel. Tout le monde dit ça, mais
c'est vrai en même temps.
Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut le réaliser. Voilà. Il faut, c'est bien beau de le dire et puis de rester dans son petit coin. Moi, je trouve qu'il faut le réaliser en vrai. C'est-à-dire que, voilà, se mettre en danger aussi, parce que il y a des choses qu'on sait pas faire. Moi, rapper, je sais pas faire. Donc, à un moment donné, il va falloir que je comprenne comment il fonctionne, la musique. Voilà, c'est ça l'intérêt.
Bertrand Cervera est donc concertiste, mais aussi chef d'orchestre, mais aussi professeur, et il porte un regard très singulier sur la façon d'apprendre la musique.
Dans la pédagogie, souvent dans certains conservatoires, on reste très scolaire. Ben, c'est un peu comme partout pour l'apprentissage d'une langue étrangère. On a quand même un peu de retard par rapport à certains pays. Et je pense que nous, il faut garder le côté ludique et en même temps le côté exigeant. Et pas seulement que le côté exigeant. Donc il faut trouver un juste milieu. Sauf que, moi je me rends compte avec mes étudiants et mes élèves, on demande une exigence terrible. Mais sauf qu'il faut faire comprendre à l'enfant que ça va lui servir pour tout. Voilà. C'est-à-dire que cette exigence-là, elle est utile pour tout. Pour même quand on joue au ballon, même quand on joue, même quand on fait de la voile, même quand on parle avec quelqu'un, on doit avoir cette exigence dans la vie, je trouve. Et donc cet apprentissage-là, il va vous servir pour tout.
Au cours de sa carrière, Bertrand Cervera a également côtoyé et joué avec de grands noms du jazz ou de la variété, des moments inoubliables et forcément très enrichissants.
Ça fait partie d'une évolution et d'un enrichissement très personnel. Par exemple, Kurt Mazur, qui était
un grand chef d'orchestre.
J'ai envie de dire presque mon grand-père musical. Il m'a appris énormément de choses, humainement, musicalement. Michel Legrand, avec cette espèce de passion mélangée justement du jazz et du classique. Et voilà. Et puis après, des musiciens. Je vais vous dire, j'ai même des amis en Corse qui m'ont appris une certaine forme de musique, alors qu'ils n'étaient pas musiciens professionnels. Et c'est eux qui m'ont appris cette libération du jeu, de jouer comme ça à table avec des gens autour. Ce que je raconte toujours, c'est que je me retrouvais autour d'une table avec des gens qui n'étaient pas musiciens professionnels et qui jouaient de la musique tout le temps. Alors que moi, j'étais le musicien professionnel du coin et j'étais là silencieux parce que j'étais incapable de... Voilà, donc tous ces gens-là m'ont appris à extérioriser ce que j'avais à l'intérieur. Et puis la musique, c'est comme un pansement parfois. De jouer de la musique et de l'écouter, ça fait du bien.
Le violoniste Bertrand Cervera, qui était donc notre invité ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver son interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Il sera donc en concert demain soir à 19h au Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, autour d'un programme éclectique à son image, avec de la musique classique, de la musique folklorique, mais aussi des musiques de films. Il sera 11h50 dans quelques secondes. Dans un instant, c'est une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde, avec cette annonce surprise de Donald Trump qui annonce la suspension de l'entrée en vigueur des droits de douane.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Bah, tu étais où ?
Avec Max, à la maison.
Max ? Mais c'est qui Max ?
Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois ? Ah ouais, c'est génial !
Allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficie d'un tarif remis à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
C'est un retournement de situation très trumpien. La hausse des taxes imposées sur les droits de douane pour les produits étrangers entrant aux USA est entrée en vigueur hier. Et le jour même, le président américain appuie sur pause. Sur X, il annonce un report de la mesure de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, sauf pour la Chine, qui semble concentrer toute l'attention du président américain. Caroline Baudry pour Europe 1.
Annonce surprise de la suspension durant 3 mois, 90 jours des surtaxes spécifiques imposées à chaque partenaire des États-Unis, tous sauf la Chine, qui écope elle d'une augmentation de 125% de taxes douanières sur ses exportations vers le pays. Il fallait agir, explique Donald Trump ce soir devant la Maison-Blanche.
La Chine veut trouver un accord. Ils ne savent simplement pas comment s'y prendre. Ce sont des choses qui arrivent, ils ne savent pas comment. C'est un peuple fier et le président Xi, c'est un homme fier, je le connais très bien. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre.
Trump reconnaît que les surtaxes imposées au monde effrayaient un peu. C'est sa stratégie depuis le début, assure l'un de ses ministres, collé au mur tous les partenaires commerciaux, voire qui étaient prêts à la négociation, qui ne l'étaient pas. La Chine a directement riposté en augmentant ses droits de douane quand d'autres partenaires, dont l'Europe, ont annoncé préparer la riposte, tout en restant ouvert à la négociation.
Qu'elles entrent en vigueur immédiatement ou non, ces hausses de taxes américaines vont toucher toutes les économies. En France, le gouvernement anticipe une baisse de la croissance pour 2025, initialement prévue à 0,9%, la croissance est ramenée à 0,7%, mais le ministre de l'économie rappelle qu'il est toujours hostile à une augmentation des impôts. Cette pause annoncée par Donald Trump a eu aussi des effets immédiats sur les marchés boursiers qui ont retrouvé des couleurs. À Wall Street, par exemple, le Nasdaq est remonté de 10%. Quant au prix du pétrole, il est reparti à la hausse. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette déclaration d'Emmanuel Macron, actuellement en visite en Égypte. Il a évoqué la situation au Proche-Orient avec ses interlocuteurs et le chef de l'État a annoncé que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin prochain.
On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc, dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
Emmanuel Macron, interrogé par nos confrères de France 5. En métropole, la proposition choc de Laurent Wauquiez fait vivement réagir. En pleine campagne pour la présidence de son parti, les Républicains, Laurent Wauquiez a donc proposé de placer en centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon les étrangers sous OQTF les plus dangereux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette proposition ne rencontre pas de succès dans la classe politique, c'est même plutôt le contraire. Jacques Serret pour Europe 1.
La proposition de Laurent Wauquiez est critiquée de toutes parts. À gauche, ce n'est pas une surprise. Chez les macronistes, ce n'est pas plus étonnant. Mais même Marine Le Pen monte au créneau. La place des OQTF, c'est dans leur pays, sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens, écrit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Quant au LR, sur la ligne de Bruno Retailleau, comme la porte-parole du gouvernement Sophie Primas, leur réaction est tout aussi sévère.
Moi, ce que je veux dire, c'est que Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France. Ils pensent que c'est la France, mais en dehors de l'espace Schengen et en fait, finalement, un petit peu à côté. C'est une mesure qui n'est pas du tout envisagée par le gouvernement, donc je ne vais pas plus la commenter. On sait qu'on est dans une période de compétition à l'intérieur du groupe LR, donc vont fleurir beaucoup de propositions, parfois un peu choc. On va dire que c'en est une, pas la plus habile pour Saint-Pierre et Miquelon.
Mais Laurent Wauquiez n'en démord pas. Selon les informations d'Europe 1, il organisera demain une visioconférence pour convaincre les militants LR précisément sur cette proposition.
Toujours en métropole, le tribunal des activités économiques de Paris déclare la régie Mediatransport fautive dans l'affaire de la campagne d'affichage du livre de Jordan Bardella. En octobre dernier, sous la pression des syndicats, la régie avait refusé de placarder les affiches faisant la promotion du livre dans le métro, arguant de la neutralité du service public. Le tribunal lui a donc donné tort. Il avait été saisi par Fayard, la maison d'édition du livre, une décision qui satisfait l'avocate de la maison d'édition, Maître Sarah Salman.
Je suis satisfaite pour la société Fayard puisqu'ils reconnaissent que l'inexécution contractuelle est fautive. À partir du moment où ils acceptent de signer le contrat, et c'est là le point cardinal de ce dossier, ils avaient connaissance du nom de l'auteur, ils savent quel est son mandat, ils savent quelle est sa position sur l'échiquier politique. En réalité, ils avaient tous les éléments, ça ne leur a pas posé problème. Les syndicats, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, expriment un désaccord et ils disent on va ne pas honorer nos engagements. C'est ça en fait qui est discutable. Si dès le début ils avaient dit c'est monsieur Bardella, on veut pas, dont acte. Mais là, ils acceptent et ensuite, ils ne veulent plus. Alors, d'un autre côté, il n'y aura pas d'exécution forcée de la campagne puisque les dates sont passées. La campagne était prévue à la fin de l'année 2024. Néanmoins, le tribunal de commerce de Paris reconnaît que le fait de ne pas publier cette campagne d'affichage était fautif alors qu'ils avaient décidé de façon unilatérale de ne pas procéder à cette campagne en se fondant sur leurs conditions générales de vente.
Politique et justice, toujours avec la garde à vue pendant quelques heures du maire de Lyon. À un an des élections municipales où il entend briguer un deuxième mandat, Grégory Doucet a été entendu dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds publics. Jean-Luc Goujon pour Europe 1.
À l'origine, il y a un signalement de la Chambre régionale des comptes il y a plusieurs mois selon lequel des chargés de mission à la mairie de Lyon, recrutés normalement pour des tâches purement administratives, avaient en réalité effectué des missions politiques pour la mairie. La loi permet d'avoir un total de 12 chargés de mission politique. Or, il y en aurait eu une vingtaine de plus à la mairie de Lyon sous Grégory Doucet. Il y aurait donc une sorte de maquillage d'emploi, de mélange des genres, d'où l'audition d'aujourd'hui qui fait suite à une perquisition à l'hôtel de ville il y a un peu plus d'un an. Grégory Doucet qui est donc resté en garde à vue durant une dizaine d'heures aujourd'hui dans les locaux de la brigade financière à l'hôtel de police. Évidemment, l'image n'est pas flatteuse pour le maire de Lyon, contesté en ville depuis un certain temps et menacé par une éventuelle candidature de l'ex-président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Grégory Doucet, qui vient de s'exprimer à la sortie de l'hôtel de police. On l'écoute.
Si la conclusion devait être que ces emplois sont des emplois politiques, il serait considéré qu'il s'agit d'un détournement de leurs fonctions. Et si ce n'est pas le cas, ces emplois seraient considérés comme nous le défendons, comme je le défends, des agents administratifs qui sont au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Et de ce fait, il n'y a absolument rien à nous reprocher, que ce soit à moi ou aux autres personnes qui ont pu être entendues.
Voilà, donc pour l'heure, aucune mesure n'a été prise contre le maire de Lyon, qui assure donc n'avoir rien à se reprocher et se tenir à la disposition de la justice.
Il est 11h58, la dernière pause de ce journal avant de retrouver l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Les best-sellers chez Kiabi, c'est votre sélection incontournable de vêtements au meilleur rapport qualité-prix. Des pièces stylées, confortables et indispensables pour petits et grands, comme le t-shirt imprimé fille ou garçon à 290 francs. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Rendez-vous en magasin ou sur kiabi.nc.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres.
RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, elle nous emmène d'abord sur les terrains de football. On jouait ce matin à la suite des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Deux matchs au programme, Lionel Sabot. Tous les regards étaient tournés vers le Parc des Princes où le PSG recevait les Anglais d'Aston Villa.
Tout va bien, c'était bien les quarts de finale aller de la Ligue des Champions.
Non, du tout,
vous regardez comme ça. Quelques jours après avoir célébré au Parc des Princes déjà leur 13e titre de champion de France, les Parisiens ont pris ce matin une très belle option pour la qualification pour les demi-finale de cette Ligue des Champions. Encore une fois, les Parisiens nous ont régalé lors de cette rencontre qu'ils ont globalement dominé de la tête et des épaules. Et pourtant, malgré une domination sans partage pendant la première demi-heure, ce sont bien les joueurs d'Aston Villa qui ont marqué les premiers. Un but sur contre-attaque, ouverture du score signé Morgan Rodgers à la 34e minute de jeu. Mais 5 minutes plus tard, le jeune Désiré Doué, qui porte franchement bien son nom, a remis le PSG sur de bons rails. Une égalisation d'une frappe sublimissime à l'entrée de la surface de réparation qui est venue se nicher dans la lucarne opposée, début gardé par Martinez. Vous vous souvenez, c'est le gardien de l'Argentine qui s'était moqué de nous à une certaine finale de Coupe du Monde. En seconde période, les Parisiens n'ont jamais été inquiétés. Par deux fois, les hommes de Luis Enrique ont marqué. Le PSG s'impose 3-1 et peut voir venir sereinement le retour la semaine prochaine. Dans l'autre match de la matinée, le FC Barcelone a également pris une très belle option pour la qualification. Les Catalans qui sont imposés 4-0 sur Dortmund grâce à un doublé notamment de Robert Lewandowski.
Alors voilà pour le foot. On passe au tennis avec la suite du tournoi Masters 1000 de Monte Carlo.
Tout va bien. Côté français, la seule bonne nouvelle du jour, c'est la qualification d'Arthur Fils. Victoire en 2-7, 6-2, 6-4 sur l'Italien Coboli. En revanche, c'est fini pour Richard Gasquet, Gaël Monfils. Gasquet, qui disposait d'une carte d'invitation, s'est incliné en 3-7 devant l'Allemand Altmaier. Monfils l'est lui incliné en 2-7 devant le Russe Rublev. Élimination également d'Alexandre Muller, battu en 3-7 par le Russe Medvedev. Score final 7-6, 5-7 et 6-2. A noter également l'élimination surprise d'un certain Novak Djokovic, battu en 2-7 par le Chilien Tablio. Score final 6-3, 6-4.
Alors, puisque tout va bien, on va poursuivre avec le sport dans la région, on va reparler football. Malheureusement, Tigasport s'est incliné en demi-finale de la Ligue des champions d'Océanie.
Oui, parcours terminé pour les Calédoniens dans cette O-League 2025. Hier après-midi, à Honiara, Tigasport affrontait en demi-finale de la compétition les Papous d'Ekarir United. Au terme d'une rencontre très disputée entre deux équipes sensiblement du même niveau, ce sont les joueurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se sont imposés. Score final, 1-0. Et écoutez, Léo Leonardo Lopez, l'entraîneur de Tigasport.
On peut être très fiers de notre bande à nous qui ont montré qu'avec du cœur et avec une organisation, avec leur qualité naturelle de footballeur, on pouvait faire de belles choses. Maintenant, je suis assez triste pour eux, pour aujourd'hui, parce qu'ils ont encore tout donné. Et j'espérais qu'ils seraient récompensés de leurs efforts. Même en étant réduits à 10, ils ont continué à vouloir jouer au sol, ils ont continué à vouloir se procurer des occasions. Et malheureusement, on n'a pas été récompensé. Maintenant, félicitations à Ekari qui a joué son football et qui, sur le premier contre en première mi-temps, a marqué. On avait prévu ce scénario. Et voilà, on n'a pas su revenir au score. Donc, félicitations à eux et bonne chance pour la finale contre Auckland.
Et en finale, Ekari et United rencontrera, vous l'avez compris, Auckland City, les Néo-Zélandais qui s'étaient imposés hier après-midi. 2-0 sur les Vanuatais, Difira Blackbird.
Merci Lionel.